Quelle joie, quelle grâce et quel doux privilège nous accueillons ce soir pour notre causerie, notre ancien aumônier, professeur au collège des Bernardins et prêtre diocésain à Paris. Père Florent Urfels, vos paroles sont chères au Tala. Causez-nous d'éternité, de l'âge, du retour de Jésus, en bref, des fins dernières, telles qu'on les prêchait au cours du Moyen-Âge.
Oh, bravo.
Bravo, Martine.
C'est de Guillaume.
Mais je vais y causer, comme tu dis, là, c'est bien, je vais y causer. Enfin, je vais y causer, mais vous m'avez demandé... Donc, la prédication, hein, le thème, c'est la prédication. Ça, j'y connais vraiment rien du tout. Les fins dernières, alors je sais pas que je suis spécialiste, mais j'ai fait des petits calculs récemment, donc j'ai des idées sur la date. Bon, alors donc, faudra pas me poser trop de questions, parce que vraiment, j'y connais rien, donc j'ai fait un truc que j'ai lu à toute vitesse. Alors, je vous donne mes références. Jean Delumeau, ça c'est quand même bien connu. Le péché et la peur. Bon, vous devez connaître ça, c'est sûrement un peu vieilli, mais bon, c'est quand même une bonne référence. Et puis Nicole Berriot, ça elle s'y connaît en prédication médiévale. Nicole, elle est très, très... Et elle a écrit un article un peu sur le sujet, donc je me suis inspiré de tout ça. Oui, le Moyen-Âge, j'ai pris ça, j'ai un peu restreint la période, parce que je pense que c'est... D'abord parce que j'avais des sources, et puis surtout parce que je pense qu'il y a... Enfin, quand je dis Moyen-Âge, c'est à partir du 12e, enfin du 12e jusqu'au 15e, oui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que c'est une période intéressante pour examiner non seulement la théologie des fins dernières, mais aussi la prédication des fins dernières. Ouais, donc, bon. Alors, je voulais lancer, mais j'ose à peine parler après cette présentation, mais je voulais lancer ma chose en citant un verset de l'Ecclésiastique qui est assez souvent... qu'on retrouve assez souvent chez les prédicateurs, enfin dans les homélies, prédications au sens large, hein, c'est pas que l'homélie à la messe, sur les fins dernières, c'est dans, donc je vous le dis en latin, in omnibus operibus tuis, memorare novissima tua et in eternum non peccabis. Donc je traduis à vue dans l'omnibus, donc. Enfin, je traduis. C'est enregistré maintenant. C'est donc dans toutes tes heures, mais c'est un verset beau, ce verset. Dans toutes tes heures, souviens-toi les novissima. C'est en latin, c'est comme ça qu'on traduit les escata. C'est marrant parce que c'est pas tellement. Je sais pas trop comment ça s'explique. Escata en grec, c'est dernier, définitif. Mais en latin, c'est les novissima, les choses les plus nouvelles. Le grec nous donne le point terminal, et puis le latin, que le point terminal ouvre sur autre chose, en fait. Hein. Donc rappelle-toi de tes fins, alors on pourrait dire oui, de ta fin, de tes fins, bon, c'est pluriel, et pour l'éternité, tu ne pécheras pas. Alors, on sent que c'est un peu ça qui commande quand même largement la prédication, c'est méditer les fins dernières, penser aux fins dernières... C'est aussi, c'est pas simplement un sujet intéressant, c'est pas simplement l'occasion de faire des spéculations théologiques ou autres, mais c'est surtout pour le temps présent, dans le temps de l'assemblée qui écoute la prédication, se rappeler les grandes options de la liberté pour Dieu, en fait. Hein. Et c'est inversement, oublier les fins dernières, ça peut être une manière de s'engoncer dans le temps présent, s'engoncer dans le confort de la vie, et se mettre petit à petit à pécher, ou en tout cas à oublier Dieu. Donc ça, c'est un peu ça sera un peu l'axe quand même du truc, c'est qu'on prêche les fins dernières, oui, mais pour le temps présent, là, pour se convertir, se reconvertir au Christ dans le temps présent. Alors, j'ai organisé mon truc. J'essaye de vous causer 45 minutes, c'est bien. Donc là, ça comptait pas. Hein. Là, c'était juste pour rigoler. Donc là, on lance maintenant. Alors, donc j'ai prévu 4 parties, je crois, ou 3. Non, 3 parties. Ah oui, contexte théologique et culturel, justement. Ça, c'est un peu expliqué... Pourquoi je trouve que c'est intéressant cette période-là par rapport aux fins dernières. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans la théologie, la représentation des fins dernières au 12e, 13e. Ma deuxième partie, c'est un peu thématique. Donc de quoi on parle dans la prédication? On parle justement de ce qui commence à être identifié comme les 4 fins dernières. Je ne sais pas qui est le premier d'ailleurs qui a donné cette classification, mais il y a une glose... Il y a une glose, je ne sais plus, assez... il s'appelle Nicolas, quelque chose, je ne sais plus, enfin, au fin du 12e, où justement, il identifie, donc au moins au 12e, on avait cette liste des fins dernières, c'est la mort, le jugement, l'enfer et le paradis. Enfin, donc, c'est un peu les thèmes que j'ai pris. J'ai rajouté le purgatoire, qui, dont l'essence est de n'être pas une fin dernière, mais enfin, je la mets quand même dans le truc, parce que c'est un peu le même type de... Au niveau de la prédication, ça rentre bien dans le jeu. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on prêche sur la mort? Qu'est-ce qu'on dit quand on prêche sur le jugement? Et puis, la troisième partie, qui est une espèce de vague conclusion mal foutue, c'est j'ai voulu prendre un peu de recul rhétorique et de voir comment... quelles étaient les techniques, quels étaient les moyens pour persuader les fidèles de reprendre en main leur vie chrétienne à la lumière des fins dernières. Donc comment est-ce que ces homélies médiévales, surtout sur les fins dernières... J'ai appris des trucs, hein, d'ailleurs, en préparant... ça, je vous dirai ça tout à l'heure. J'ai appris des trucs. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, donc voilà. Bon, alors, le contexte théologique et culturel, vous le savez... vers la fin 12e, début 13e, il y a un peu une espèce de ferveur eschatologique liée notamment à un personnage assez pittoresque qui s'appelle Joachim de Flore, qui était de Calabre, qui était spirituel, fondateur. Il a fondé un monastère d'abord indépendant, puis s'est rattaché, je crois, à la fin aux cisterciens, à Flore d'ailleurs, oui, donc en Calabre. Et ce gars-là, en fait, Joachim, alors il y avait aussi une réputation de prophète assez internationale. Enfin, les souverains faisaient appel à lui quand ils avaient des problèmes. Aujourd'hui, on fait appel à des cabinets de conseil. À l'époque, on allait voir des prophètes. Et donc, on lui demandait s'il avait des espèces de lumières du ciel pour aider les souverains à prendre des décisions. Mais alors, on peut retenir que, au plan théologique, ce qui est vraiment important avec Joachim, c'est qu'il a presque inventé une nouvelle manière de lire l'Apocalypse de Saint Jean, en cherchant dans les différents tableaux symboliques qui composent l'Apocalypse. Donc, je pense que vous avez un petit peu en tête le contenu de l'Apocalypse. Donc, il y a plusieurs septénaires. Enfin, il y a dans un langage assez imagé, il y a des animaux, des bêtes, et un peu de gématria, donc sur les nombres, 666, enfin, ce genre de choses. Bon, tout plein de petites énigmes, une espèce de tableau comme ça. Et l'idée de Joachim, c'est que chacun de ces tableaux, chacune de ces énigmes correspond, mais de manière codée, à une étape de l'histoire. Et en fait, ça, on ne faisait pas tellement un truc qu'on faisait avant, en fait. Vous allez voir à la fin de la Cité de Dieu comment Saint-Augustin s'inspire de l'Apocalypse pour parler des fins dernières, justement, mais il ne fait pas comme ça. Il n'y a pas cette idée que, codé, on a des étapes de l'histoire, avec un peu en ligne de mire que, ben, du coup, l'Apocalypse, si j'ai le bon code, j'arrive à savoir si je suis à l'étape N-1, à l'étape N-2, ou si c'est pour demain. Vous voyez, donc on voit bien que cette nouvelle manière de lire l'Apocalypse, en cherchant des correspondances entre des événements de l'histoire qu'on connaît, et puis... un déroulement littéraire dont on imagine que dans l'Apocalypse, bah, plus on se rapproche de la fin du livre, plus on se rapproche de la fin de l'histoire, ça va exciter les gens. Parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est plutôt de dire, bah, du coup, telle guerre, en fait, c'est déjà Armageddon, ou la défaite du PSG, c'est déjà des événements comme ça, des grands événements structurants. On est proche de la fin. Donc tout ça, ça nous donne une espèce de désir, évidemment, de calculer, mais aussi, fatalement, ça pousse pour que ça soit intéressant du côté de la fin. Donc ça, c'est une première donnée. Donc c'est, alors, je vous ai mis des bullettes. Joachimisme, interprétation historicisante de l'Apocalypse. C'est ça que ça veut dire, historicisante. Deuxième élément qui va un petit peu dans ce renouvellement, cette ferveur, j'ai appelé ça ferveur eschatologique, je ne sais pas si c'est une bonne manière de dire, mais ces deux événements un peu différents mais qui ont fini par se rencontrer, c'est l'âge de l'esprit. Alors ça fait partie de la théorie de Joachim de Flore, c'est de dire que même s'il y a un découpage en différents événements de l'histoire, ces tableaux de l'Apocalypse, on peut regrouper quand même en trois séquences l'âge du Père, l'âge du Fils... et l'âge du Saint-Esprit. Voilà, ça aussi, c'est assez nouveau, comme... je ne sais pas si c'est complètement le premier, peut-être chez les Victorins, déjà, il y a eu des trucs, mais enfin... En tout cas, lui, il donne beaucoup d'importance à ça, avec une manière assez... qui peut nous paraître étrange, voire même un peu hétérodoxe, c'est de dire, l'âge du Père, c'était une première économie du salut qui est marquée par le don de la loi, parce que le Père, il donne la loi... Il avait lu Freud, Joachim de Flore, il savait, donc le père de Noël, donc c'est le temps des Juifs, en fait. Voilà. C'était le moment des Juifs, le moment où il y avait les prêtres, alors les prêtres à Jérusalem, hein, c'était sérieux, c'était pas comme nous. Hein, c'était la loi, il fallait obéir aux commandements, il y avait une hiérarchie, c'était très strict. L'âge du fils, ben, c'est à partir de Jésus-Christ jusqu'à l'époque de Joachim, parce que dans tous ces découpages, c'est toujours au moment où on parle, où il y a une charnière. Donc ça correspond au clergé, aux ordres traditionnels, donc Saint-Benoît, les cisterciens, enfin Clunis, ce genre de choses. C'est mieux, mais c'est pas encore parfait. Et ce qui va venir, c'est l'âge de l'esprit, où là, d'une certaine manière, tout ce qui est aspect institutionnel dans l'Église va être gommé, parce que l'esprit, c'est la liberté, nous dit saint Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, il me semble. Et donc, on sera... Il voit ça un petit peu comme nos amis les charismatiques, donc comme une espèce d'effusion de l'esprit qui fait qu'on sera tellement totalement habité par l'Esprit Saint que on n'aura plus du tout besoin d'un cadre institutionnel pour ne pas pécher, puis même plus largement pour vivre dans la charité. Et donc lui, il se voit un petit peu comme le prophète annonciateur de stage de l'esprit. Et par ailleurs, il se trouve que c'est à la même époque où une nouvelle forme d'ordre religieux apparaît, qui sont les ordres mendiants, qui, loin de se cantonner dans des monastères et de bêcher les champs comme font les moines, ou de simplement vivre du produit de la terre et d'avoir des belles liturgies comme ça finissait par être à Cluny. Donc les ordres mendiants, ils ont cette caractéristique que ça participe un peu du mouvement communal. Ils sont en ville ou sinon même sur les routes. Ils sont mendiants parce qu'ils n'ont pas de terre à cultiver et ils sont dans une espèce de... Ils court-circuitent l'autorité épiscopale. Alors ils se rattachent quand même, pour ceux qui sont reconnus évidemment au Saint-Siège, mais ça leur donne quand même une assez grande liberté par rapport au clergé local. Et vous savez sûrement que dans l'histoire de... Un petit peu déjà chez les dominicains, mais encore beaucoup, beaucoup plus chez les franciscains, quand il y a eu, après la mort de Saint-François, il y a un peu une espèce de scission entre des gens qui disaient, c'était très beau ce qu'a fait Saint-François, mais ça manquait justement un peu de cadre institutionnel, on va se rapprocher des cadres canoniques habituels pour avoir un ordre religieux. Puis il y avait une tendance qu'on appelle les spirituels, qui se rattachent à Frère Léon, qui est de dire, mais non, justement, quand on demandait à Saint-François quelle était sa règle, il disait, moi, c'est l'Évangile, en fait, il n'y a pas besoin de plus. Donc plutôt, plutôt dans cette nouvelle... un nouveau mode de vie, un peu à distance des cadres institutionnels. Et donc certains, parmi les spirituels franciscains, ont dit, finalement... Ce que Joachim avait pressenti, ou ce qu'il avait même reçu de Dieu, puisqu'il avait une réputation de prophète, c'était nous. L'âge de l'esprit, ce qu'il caractérise, c'est une espèce de déplacement qui va se faire, où c'est plus l'âge des... Ceux qui vont guider l'Église, ça sera plus les prêtres diocésains, qui sont quand même un petit peu le fond du truc. Donc, mais ces ordres mendiants, donc les dominicains et puis les franciscains, et qui vont complètement renouveler l'Église et lui donner un nouveau visage, où c'est l'Esprit Saint qui sera beaucoup plus aux commandes de l'Église. Alors tout ça, ouais, ça nous donne un peu cette idée, est-ce qu'on est dans l'âge de l'Esprit ou pas, ça va un petit peu dans le même sens. Alors dans l'idée, si je reviens un peu à mon interprétation historicisante, justement, on est un truc qui fait penser aux gens que peut-être, si on lit l'Apocalypse comme Joachim, on s'approche de la fin du jugement dernier. C'est des événements comme par exemple les guerres, dont notamment les croisades, notamment la deuxième croisade, et puis en sens inverse, la reconquête de Jérusalem par Saladin. Certains disent, mais est-ce que ça ne s'agit pas justement de ces guerres? Alors on ne sait pas très bien, mais à partir du chapitre 14, non, 14 c'est le jugement, donc à partir de 15 et 16, donc le septénaire des coupes, c'est le septénaire le plus eschatologique dans l'Apocalypse, il y a à plusieurs reprises, on parle de batailles. On ne sait pas d'ailleurs toujours si c'est des batailles différentes ou si c'est la même. Il y en a une qui a lieu à Megiddo, donc Armageddon. En tout cas, on se dit, est-ce que ces guerres-là ne sont pas la guerre finale eschatologique, mais des guerres, une espèce de prodrome, quoi, faire des guerres, des annonces, qui annoncent ces guerres eschatologiques. Et puis, alors, c'est aussi le moment où il y a la querelle entre l'empereur Frédéric II, notamment, et puis la querelle des investitures, et puis le pape. Là aussi, il se trouve que pour disqualifier l'adversaire, des deux côtés d'ailleurs, on va utiliser cette rhétorique joachimite, de l'Apocalypse, mais qui redonne du souffle aux grandes figures eschatologiques, en disant, est-ce que mon ennemi ne serait pas une figure de l'Antichrist? Alors ça marchait des deux côtés, donc Frédéric II, les soutiens du pape, disaient quand même, il a bien une gueule d'Antichrist celui-là, et Frédéric II disait l'inverse, parce qu'il se trouve que dans l'Apocalypse. Bon, enfin, il y a plein de plusieurs opinions sur cette histoire-là, mais sur le lieu, disons, de naissance de l'Apocalypse. Mais c'est sûr qu'il y a un moment donné où, quand même, visiblement, il semble que ce qui est en ligne de mire, l'ennemi, enfin, il y a le dragon puis les deux bêtes à partir du chapitre 12. Et à un moment donné, quand le jugement de Babylone, c'est clairement le jugement de Rome, parce qu'il y a les sept collines, enfin, bon, ça, on décrit Rome. Alors évidemment, à l'époque, c'était la Rome impériale, mais quand on est ennemi du pape, on dit, mais en fait, c'était un peu codé. Il savait qu'à un moment donné, le pape s'éloignerait de la vraie foi, et donc, finalement, c'est le pape, l'antichrist. D'ailleurs, cette rhétorique qui assimile Rome et le pape à l'antichrist, c'est nos frères réformés ont complètement s'engouffré là-dedans. Donc, ils sont très contents quand on comprend que Babylone, en fait, c'est Rome, parce que Rome, c'est le pape, et le pape, c'est l'antichrist. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils disent. Attention, c'est ce qu'ils disent. Hein, vous n'avez pas écouté ce que ma carrière est terminée. Avec une habile coupure dans la conférence. Donc, c'est ce que, voilà. Donc vous voyez, on utilise ces figures eschatologiques comme rhétorique politique, enfin politico-religieuse. Et puis un dernier thème, c'est la translatio studi, donc et imperi. Donc ça vient de Victorin, je crois que c'est de Saint-Victor, ou Richard, enfin, sinon je crois que c'est... Enfin bon, avec cette idée que... C'est assez rigolo, son idée, il prend un peu alors, l'histoire du monde comme il pouvait la connaître, parce qu'il n'était pas savant comme vous aujourd'hui, quand vous faites de l'histoire, ils avaient pas... Mais enfin, ils avaient quand même un peu des notions d'histoire universelle. Ils avaient le sentiment que, au fur et à mesure que le temps se passe, enfin, que les siècles se passent, c'est un peu comme s'il y avait un axe important autour duquel beaucoup de choses se jouent, à la fois au niveau culturel et politique. Les grands empires, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, les grands empires qui vont structurer au plan culturel et politique la vie du monde, en fait, cet axe se déplace vers l'ouest. Donc, il a commencé très à l'est, et il se déplace vers l'ouest, et quand il sera complètement arrivé à l'ouest, ben, en fait, après, il ne va pas tomber dans la mer, parce qu'après, dans la mer, il n'y a plus rien. Donc, en gros, quand ça arrive en France... C'est aussi un signe de fin du monde, cette histoire-là. Et comme les mecs, ils se sentent très bons au niveau de la culture, donc au niveau translatio studi, ils disent, ben en fait, maintenant, le lieu, ben c'est vrai qu'au fond, d'ailleurs, au 12e, encore plus au 13e, la grande ville intellectuelle du monde entier, puis même encore même plus grand, enfin de la galaxie, c'est Paris. C'est Paris. Donc ils pourraient se dire, ben, la translatio studi, elle arrive au bout, en fait. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais après, il n'y a plus rien. Donc tout ça... Tout ça, c'est des petits signes, ça explique pourquoi il y a cette espèce d'intérêt, d'abord théologique, mais aussi politique, et puis aussi du coup spirituel, pour les fins dernières. Et puis une deuxième donnée qu'il faut avoir en ligne de compte, c'est un peu différent, mais ça va jouer un grand rôle dans la prédication des fins dernières, c'est aussi le moment, fin 12e, puis aussi beaucoup, enfin 13e siècle, où il y a une assez grande mutation spirituelle, c'est d'ailleurs passionnant à étudier. Au XIIe siècle, on pourrait dire qu'il y a un fait très très massif, c'est qu'il y a une grande ferveur, une grande soif de sainteté chez les laïcs. Parce que sans doute il y a un niveau culturel qui s'élève, parce que bah, pour toutes sortes de raisons, brusquement la religion, dans son modèle de perfection, donc la sainteté, cesse d'être l'apanage un tout petit peu du clergé diocésain, mais surtout beaucoup des moines et des ermites, pour devenir en fait beaucoup de gens donc, qui étaient des laïcs, alors plutôt des laïcs quand même. Qui était cruellement frappé par le drame de l'ISF. Hein. C'était pas forcément le bas de gamme. Hein. Mais en tout cas, il y a des laïcs qui n'ont pas les atouts forcément théologiques, même parfois qui ne savent pas lire. On peut être un seigneur et ne pas savoir lire et à peine écrire, ou à peine lire et signer par une croix, mais qui peuvent pas du coup lire la Bible comme les moines, mais qui ont un vrai désir de sainteté. Voilà, un vrai. Et donc il y a cette donnée là. Et puis l'apparition des ordres mendiants qui, de fait, vont prêcher la pénitence un peu partout, et le quatrième concile du Latran, qui va avoir une décision très importante au niveau pastoral, c'est de faire l'obligation aux chrétiens de se confesser au moins une fois par an, si possible autour de Pâques, à son curé. Et ça va faire qu'une procédure de pénitence qui avant était très exceptionnelle, qui se faisait avec l'évêque... Enfin, qui était vraiment pour les cas très très graves, la confession, puisque c'est de ça qu'il s'agit, va devenir une espèce d'instrument habituel et normal de la vie spirituelle, précédé évidemment par l'examen de conscience. Et donc, il va y avoir un affinement de la conscience du péché et aussi un désir d'être davantage saint. Donc, on s'examine plus en quoi est-ce que. Et tout ça fait que, bah oui, c'est ce que j'ai marqué là, finalement, de la conscience morale, il y a aussi un véritable intérêt pour la prédication, de dire, mais dans ma prédication, qu'est-ce qui va m'aider dans ce que me prêche mon curé, mes prêtres, mon évêque, ou les moines, ou les frères, ou les dominicains, ou les franciscains, qu'est-ce qui va m'aider, moi, à devenir plus saint et de telle sorte que je me rends compte quand je me confesse, au moment où je me confesse, et quand je prépare ma confession, en préparant mes examens de conscience, je vais voir qu'en fait, ma vie spirituelle s'améliore. Voilà, donc tout ça, c'est des données, certaines un petit peu par accident, elles se retrouvent à peu près à la même époque, mais qui vont toutes dans le même sens. Alors, une fois qu'on a cet arrière-fond théologique et culturel, j'en arrive à ma deuxième partie, donc les thèmes de la prédication des fins dernières. Je regarde ce que j'ai rien oublié, parce que j'ai quand même écrit des... Mais alors, est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, la translatio. Ah oui, si, ça, je peux dire. Bon, ben, je vous le dirai tout à l'heure, ça, oui, donc, je vous le dirai un autre moment. Donc, alors, je vais prendre les quatre fins dernières et puis le purgatoire. Bon, quand on regarde, alors là, vraiment, je m'inspire beaucoup de ce que dit Nicole Berriot. Vous n'avez pas imaginé que je me suis coltiné, que je suis allé dans les archives pour voir, pour éplucher des serments pas édités. Même si en latin, je suis assez doué, comme vous l'avez vu tout à l'heure par ma traduction. Donc, là, je prends ce que dit Nicole Berriot, mais c'est quelqu'un de très très solide, donc on peut lui faire confiance. Comment on prêche la mort? Eh bien, le premier, je trouve ça intéressant, un des points forts de la prédication sur la mort, quand on prêche sur la mort, ce qui peut être à l'occasion d'ailleurs des lectures, si les lectures vont un peu dans ce sens-là, mais aussi beaucoup, évidemment, lors des messes de funérailles, c'est un lieu bienvenu pour parler de la mort, c'est que la mort met un terme, pas tellement à la vie, enfin, ça c'est certain, mais surtout à la possibilité de se convertir. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Voilà, on enterre quelqu'un et on dit, ben voilà, on accueille Robert. Robert, si tu nous entends, donc voilà, tu es avec nous. Mais bien, cher frère, est-ce que vous vous rendez compte que Robert ne peut plus se convertir? Voilà, son choix est fait. Sa vie, elle a été ce qu'elle a été. Elle a été belle, elle a été longue, elle a été courte, elle a été douloureuse. En tout cas, la conversion, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'on met d'emblée l'accent sur ben, à quoi correspond la vie. La vie, c'est le temps qui m'est donné pour choisir Dieu. Donc, c'est un peu une réflexion sur la liberté, si vous voulez. Donc, et ça, c'est vrai que c'est de la bonne doctrine. C'est que c'est pas qu'on cesse d'être libre une fois qu'on est mort. Donc, l'âme séparée ne perd pas son libre arbitre, mais c'est un libre arbitre qui ne peut plus opter, qui ne peut plus avoir une espèce d'option fondamentale pour ou contre Dieu. C'est pas, en plus, même si même par exemple purgatoire, en fait, on est plus libre que pour aimer. C'est un peu dire ça comme ça. Notre liberté ne peut plus servir qu'à aimer nos frères, aimer Dieu, mais pas à se convertir. En lien avec ça, alors là, je quitte un peu le terrain de l'homélie proprement dit, ou de la prédication proprement dit, mais c'est intéressant dans la question de de parler des fins dernières, c'est la diffusion des traités, donc l'ars moriendi, donc l'art de mourir, mais l'art de bien mourir. Alors ça, c'est plutôt vers la fin du Moyen-Âge. Ça va beaucoup se diffuser, d'ailleurs, au XVe siècle, notamment par l'imprimerie. Mais enfin, c'est intéressant de voir ça. Donc, pour montrer que ça a été bien intégré par les fidèles, ça peut nous paraître un peu morbide, mais de fait, il y a beaucoup de fidèles estimés qu'une vie chrétienne sérieuse devait régulièrement... Un chrétien sérieux devait régulièrement se mettre face à sa mort, éventuellement prochaine, éventuellement lointaine. Rien n'est plus sûr que le fait qu'on va mourir, rien n'est plus incertain que la date, mais méditer là-dessus. Et il y a des traités, on fabrique des petits traités de dévotion qui nous aident, qui nous guident dans notre méditation sur notre propre mort. Et évidemment, un des grands thèmes qui apparaît, c'est il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà, parce qu'on se souvient de la phrase de Jésus, « Je viens comme un voleur ». Dans l'évangile, sans doute que c'est plutôt ce qu'on appelle lié au retard de la parousie, donc au fait que... ces paroles, Jésus les a dites, moi je pense, mais on insiste particulièrement là-dessus. Il y a beaucoup de paraboles dans les synoptiques qui parlent de ça, parce qu'on commence à se dire, mais tiens, comment se fait-il que le temps passe aussi, qu'il y a autant de temps après la résurrection du Christ, et qu'on attend le retour du Christ, donc qui serait vraiment la fin, le jugement dernier, enfin tout le tout gros truc, ça vient pas. Et donc là, on dit, mais il faut maintenir les gens. Le risque, c'est de s'endormir, en fait, c'est de s'embourgeoiser. Il faut rester dans le... Donc, on va recueillir on se souvient de ces paroles de Jésus, « Je viens comme un voleur », et donc, il faut veiller tout le temps, en fait. Il faut toujours être prêt, il faut toujours avoir la lampe à la main. Il va venir au moment où on s'y attend pas, donc il faut faut toujours être prêt. Donc on va reprendre ce thème-là, mais en disant, mais c'est vrai pour ta mort, même si on ne sait pas quand Jésus reviendra, mais d'une certaine manière, existentiellement, l'attitude que tu dois avoir par rapport à ta mort, c'est celle que l'Église doit avoir par rapport à la parousie. Donc il faut veiller. Et c'est ça qui nous permet d'éviter le péché et donc d'éviter la damnation. Alors, un truc intéressant aussi, c'est que ces Artes Moriendi insistent beaucoup sur la dernière confession. Et ils disent un truc, alors là, moi je trouve ça un petit peu sévère. Bon, à l'époque, ils étaient méchants, mais à l'époque, c'était très différent. La terre était plate, le monde était en noir et blanc. On croyait donc que tout était. Dieu était méchant, enfin, donc tout était différent de chez nous. Hein, mais un truc qui m'a frappé, c'est qu'ils ont l'air de dire méfiez-vous, si vous attendez le dernier souffle pour vous faire votre confession, en fait, votre confession risque, alors, il dirait peut-être pas invalide, mais risque de pas être une vraie confession où vos péchés vous seront pardonnés de telle sorte que vous êtes certain de pas aller en enfer. Vous voyez, donc ils disent attention, le réflexe de dire, bon, ben là, je mène un peu une vie de patachon, mais quand je sentirai que ça va plus très bien, je fais venir le curé et je confesse tout, et puis c'est bon. Il dit non, ça marche pas comme ça, il faut... Si vous voulez vraiment que votre dernière confession soit bonne, il faut que vous ayez l'habitude de vous confesser avant. Et là, vous voyez comment ça colle bien avec ce que la 34 nous disait. En fait, c'est un moyen aussi, je pense, de donner une application au décret de la 34. Donc, pour que la dernière confession soit bonne, il faut que la conversion qui corresponde soit sincère. Et cette conversion, c'est tous les jours. Et en tout cas, pour la confession, c'est au moins une fois par an. Donc, la conversion à l'article... Ah oui, alors c'est peut-être pas forcément la confession, mais en tout cas la conversion en tant que telle, on a tendance à dire se convertir à l'article de la mort, en fait, c'est pas crédible. Se convertir juste, c'est attendre le dernier jour, et on va toujours suspecter que c'est une conversion pas authentique. Et alors un autre truc intéressant dans ces Artes Moriendi, c'est que ils mettent en garde, peut-être aussi dans l'idée que faut pas trop attendre. De procrastiner, quoi. Demain, j'arrête de toujours tout remettre au lendemain, de ne pas toujours faire ça. Donc, ils disent attention que quand on approche de la mort, on a des attaques particulièrement fortes de la part du démon. Ils disent ça aussi, parce qu'on dit toujours quand je serai sur mon lit de mort, là, ça ne me coûtera plus grand-chose, je dirai des chapelets, puis je deviendrai un saint. Ils disent attention, parce que peut-être j'aurai plus l'occasion de pécher, je serai quand même sur mon lit comme ça. Je pourrais plus que prier, donc je vais devenir un saint la dernière semaine de ma vie. Il dit attention, parce que c'est là aussi que les démons vont spécialement venir vous asticoter. Donc en fait, le danger spirituel est particulièrement fort dans les derniers jours. Et ils disent, dans ces cas-là, il ne faut pas être tout seul d'ailleurs, il vaut mieux s'entourer. Alors bon, c'est là où on voit, donc c'est peut-être une certaine classe sociale que ça s'adresse, mais de personnes pieuses et sages, d'amis spirituels, voire même d'un confesseur, si on a... un confesseur personnel, un chapelain, pour encourager le mourant. On a besoin d'aide dans les derniers instants de sa vie. Et on insiste, avec toutes ces précautions que je viens de dire, sur évidemment la confession, la communion, pouvoir communier, donc, enfin, le viatique avant la mort, et puis l'extrême onction. Alors, et puis on n'hésite pas dans ces livres, on n'hésite pas à avoir des images littéraires un petit peu explicites, quoi, on va dire. Figure-toi, regarde, toi qui es riche, toi qui manges dans l'opulence, toi qui es habitué, à des tissus confortables, rappelle-toi que ton cercueil sera dur, que ton squelette va retomber en poussière, pense qu'il y aura des vers qui vont sortir de tes orbites. On met un petit peu de... Ah ben, ils n'avaient pas la télé, il fallait bien qu'ils s'occupent un peu. Donc on met des images, on n'a pas peur des images très crues pour marquer les esprits et dire convertis-toi aujourd'hui. Voilà pour la mort. Alors, jugement dernier, ça c'est bien marrant. C'est vrai qu'on prêche plus trop sur ces trucs, hein. Sur quoi on prêche d'ailleurs, en fait, mais on devrait, moi je me dis, on devrait reprêcher sur ces trucs-là. Alors le jugement dernier, donc c'est ce que dit Nicole, hein. Moi je veux toute confiance à ce que dit Nicole Berriou, elle dit c'est vraiment omniprésent dans les sermons médiévaux. C'est de tes quatre fins dernières, et plus le purgatoire, c'est le jugement dernier qui est le plus présent. C'est vraiment un sujet récurrent, et en particulier, évidemment, pendant les deux grands temps liturgiques, où à la fois il y a la conversion, puis de deux manières différentes, un petit peu une anticipation de la fin, c'est l'Avent et le Carême. Donc, on consacre une grande partie du discours porte là-dessus. Avec un texte biblique, évidemment, ça vous auriez pu vous en douter, de référence, c'est la fin de Matthieu 25 avec le jugement des brebis et des boucs, les brebis à droite et les boucs à gauche, je crois, c'est ça. Donc quand est-ce que nous t'avons vu pauvre, nu, malade, et quand j'étais, chaque fois que vous avez fait un de ces petits qui sont mes frères, c'est moi que vous l'avez fait, et quand vous n'avez pas fait un de ces petits qui sont mes frères, c'est pas moi que vous ne me l'avez pas fait. C'est présenté. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, cette prédication, c'est à la fois, je pense, un atout, et puis peut-être théologiquement, il faudrait peut-être un peu réfléchir à ça, mais assez facilement, les prédicateurs font vraiment une pure transposition des tribunaux humains au jugement dernier. C'est pas idiot, parce que il faut, dans la théologie, il y a toujours une analogie, alors il y a toujours quelque chose de commun avec les réalités qu'on éprouve. Maintenant, il y a un saut aussi, et le Concile de Latran IV, le même de tout à l'heure, dit que dans le langage analogique, il y a toujours plus de dissemblance que de ressemblance. Mais si vous voulez faire une homélie sur le jugement dernier et que vous commencez par dire « mais ça ne sera pas comme si, parce que c'est Dieu qui est plus grand que machin », donc ça va nous prendre. Au bout d'un moment, les gens, ils quittent la salle, quoi. Et avant la quête, donc c'est quand même grave. Parce que ils ne comprennent plus, ils ne voient pas que... Donc, une prédication, ça doit toucher les gens. Et donc, pour peu que le village ait eu un procès un peu retentissant la semaine d'avant, on va dire « rappelez-vous... ça va se passer exactement comme ça, en fait. Le gars qui est accusé d'avoir volé une vache, ça va être comme ça. Il y aura un accusateur, il y aura un avocat. On va faire vraiment une espèce de transposition assez grossière, disons, des tribunaux humains sur le jugement dernier. Alors, le juge, ça, c'est le Christ. Ça, c'est Matthieu 25, en fait. Venez, béni de mon Père, tout ça. Les accusés, c'est vous, quoi, si c'est moi qui vous parle. Donc, c'est le fidèle, mais qui est invité à réfléchir sur son péché, et justement à se dire, finalement, dans le tribunal, je serai dans la position de l'accusé. Il y a un moment donné dans ma vie où je serai dans la position de l'accusé. Donc, rien que ça, on n'est déjà pas très, très à l'aise. Alors, le plus rigolo, c'est les accusateurs. Il n'y a pas que le procureur, il n'y a pas que... Ouais. Mais on aime bien... Il y a une grosse inflation sur le banc des accusateurs. Alors, il y a les anges, déjà. Alors déjà, l'ange gardien. Déjà, ton ange gardien qui dit « il m'a jamais écouté, le mec. Je lui ai dit, il m'a jamais écouté. » Et ça, le juge, il entend. Il va dire « moi. » Ensuite, il y a les saints. Alors, notamment votre saint patron, le saint patron de votre église. Imaginons que vous êtes dans la paroisse Saint-Cucufa de Montargis, par exemple. Saint Cucu Fabien, martyr du 3e siècle, grand martyr. Et il dit, il n'a pas, ou alors, il n'a pas été présent aux fêtes de la paroisse, il n'a pas écouté, en fait. Alors, il y a aussi, alors là, c'est marrant aussi de voir la position de Marie, c'est qu'au début, dans les sermons, ça, c'est ce que Nicole Berriot, elle dit, au 12e, 13e siècle, bon, c'est aussi un siècle, un peu dans la suite de Saint Bernard, où la dévotion mariale se développe, Marie, elle est plutôt du côté presque des défenseurs, en fait. Mais au fur et à mesure que le temps passe, elle quitte le banc des avocats pour rejoindre le banc des accusateurs. Je trouve ça sympa comme. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, mais tout le monde est. En fait, l'idée, c'est. Peut-être que c'est faux d'ailleurs, c'est de dire, mais les saints, ils seront du côté des accusateurs. Crois pas que tu peux te mettre un saint dans ta poche, en fait. Ils sont plutôt dans le jugement, ils sont plutôt du côté de ceux qui vont... Et alors, le truc le plus rigolo, c'est même les prêtres, en fait. Parce que c'est toujours pareil, en fait. C'est de dire, ils m'ont pas écouté, ils ont pas écouté mes homélies, ils ont pas écouté les bons conseils que je leur donnais. Et tout ça, ça fait partie du discours à charge. Donc, on insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'accusation. Alors, un thème, alors ça, c'est aussi très intéressant dans cette prédication, c'est que un des grands sujets, c'est on dire tous les péchés secrets, les péchés occultes, tous ceux dont on se pensait, il n'y a que moi qui le sais, peut-être mon confesseur, mais bon, il n'en parlera pas, mais personne d'autre le sait, tout ça sera rendu public. Voilà, les péchés occultes sont manifestés lors de ce jugement dernier, aux yeux de tous. Et alors, il y a même, alors là, du coup, on brode, d'ailleurs, il y a même des gens qui disent. Qu'ils vont apparaître écrits sur les fronts des gens, tu vois, notamment, adultère, prévaricateur, j'ai pas payé l'impôt, donc des trucs comme ça. Donc tu auras ça sur le front où tout le monde le verra. Et il y en a même aussi qui disent qu'ils vont presque donner vie. Alors là, je pense pas qu'ils y croyaient vraiment, mais en tout cas, littérairement, ils disent même que les péchés vont presque prendre une espèce de. d'existence autonome et trottiner autour de l'accusateur en disant les péchés, quoi. Alors, ça doit faire une espèce de cacophonie, mais donc ils sont des animaux répugnants qui correspondent aux péchés qu'on a fait au culte et qui viennent les dire aux oreilles de tous. Et alors ça, c'est justement ça qui est, ça c'est, je trouve, une donnée intéressante au niveau à la fois de la psychologie humaine et de l'histoire de la spiritualité et des sacrements, c'est que je vous ai parlé, donc il y a un grand renouvellement spirituel, un affinement de la conscience morale par le péché, par ce désir de sainteté et tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, que dans la confession, au Moyen-Âge, donc là je suis vraiment au XIIIe siècle, un des éléments les plus importants dans cette vie du sacrement de réconciliation, c'est la question de la honte. Et ça, alors ça je pense, c'est un livre, Michel Zin, qui a écrit un livre Humilié au Moyen-Âge, je ne sais plus. Quel est le titre, très bien, on l'explique ça très bien, c'est le fait que cette civilisation médiévale, elle est d'un côté, elle est, comment dire, par certains côtés, elle nous paraît déjà très proche de ce que nous vivons, mais d'un autre côté, elle garde des aspects que nous, on n'a plus tellement, qu'il y a peut-être dans certaines autres cultures encore aujourd'hui, mais ce que les anthropologues appellent les shame culture, je parle très mal anglais, mais il y a les cultures de la honte et les cultures de la culpabilité, les guilt culture et les shame culture. En gros, toutes les cultures sont des shame cultures, sauf les cultures marquées par le christianisme. Mais donc, à cette époque-là, un petit peu penser aussi à la chevalerie, enfin tous ces trucs-là, la honte publique, c'est pire que la mort, en fait. C'est vraiment ça, le fait de dire mes péchés cachés, mes vilains secrets vont être révélés, ça fait plus peur que la mort. On n'a pas peur de la mort parce qu'on croit la vie éternelle. Donc d'une certaine manière, la mort fait moins peur parce qu'on croit à l'immortalité de l'âme. Par contre, ça, la honte, c'est la honte, j'ai envie de dire. La honte, c'est vraiment la honte. Et donc, visiblement, c'était un des moyens les plus efficaces, ça, les prédicateurs ont bien vu ça, pour inviter les gens à résister au péché, de dire, mais si tu commets ce péché, dis-toi bien qu'à un moment donné, ça sera connu. Alors, ou c'est connu que d'une seule personne, c'est ton confesseur, c'est un moindre mal, il n'y aura que ton confesseur, mais si tu pèches et qu'en plus tu ne le confesses pas, là ça sera rendu public pour tout le monde lors du jugement. Donc il vaut mieux ne pas pécher, mais si tu pèches, va te confesser. Donc il y a ça, ce thème est bien pris. Alors d'ailleurs, il y a des comparaisons aussi dans ces homélies avec les rites d'infamie infligés aux malfaiteurs dans la société du temps. Donc je ne sais pas, on devait les mettre dans des trucs là, vous savez, on les promenait... comment ça s'appelle, là, comme il y a Tintin, là. Voilà. Enfin, on disait, ben voilà, au jugement dernier, il y aura ça aussi. Bon, c'est un peu grossier comme manière de prendre les choses, mais apparemment, c'était assez efficace. Alors, en sens inverse, alors oui, ça c'est la confession, donc, est vue comme le moyen d'échapper à la honte, alors aussi parce que la contrition, c'est à ce moment-là que la contrition prend beaucoup d'importance dans l'intelligence du sacrement de réconciliation. Il va y avoir un grand débat entre l'attrition et la contrition. Je ne rentre pas dans ce débat, mais ça, c'est un truc qu'on a dans les manuels de confesseurs. On dit au curé, quand tu as un pénitent, en fait, il faut que tu essayes de... Tu dois juger, le prêtre est juge et médecin, le prêtre qui entend une confession, tu dois essayer de juger si la confession est sincère. Et pour ça, l'élément essentiel, c'est la contrition. Et cette contrition, dans la culture de l'époque... On l'identifie quasiment à la honte du péché. Donc tu dois guetter les signes de honte du péché à tel point qu'un type qui apparemment n'a pas de honte quand il confesse son péché, faut se méfier. Et donc on dit par exemple, s'il rougit en confessant son péché, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il a honte, donc il a la contrition, donc tu peux lui donner l'absolution. Donc voilà, tout ça va un peu, cette histoire de honte, confession, le jour dernier, va un petit peu dans le même sens. Alors... Dans cette même ligne, par exemple, Saint Bonaventure, lui, quand il parle, je reste un peu sur la confession plutôt que sur la fin dernière, mais c'est dans la même orbite. Saint Bonaventure, il a un truc original, c'est que lui, il dit, certains disent, si tu confesses ton péché, du coup, il sera, entre guillemets, oublié, donc au jugement dernier, on ne le saura pas. Mais Saint Bonaventure, alors, je ne sais pas, je dis, est-ce que ça devait rassurer les gens ou les inquiéter, il lui dit, en fait, si jamais il venait à être connu, ça deviendrait une source de fierté. Parce qu'en fait, un péché, c'est l'inverse. En fait, si tu ne l'as pas confessé, ça sera source de honte au jugement dernier. Mais si tu l'as confessé, au jugement dernier, ça sera comme un titre de gloire parce que ça sera la preuve que tu as quand même lutté contre le péché. Et donc, ça te sera compté. Donc, toujours pareil, c'est l'inverse de la... Je ne sais pas comment on dit. C'est l'honneur. Oui, ça sera une source d'honneur pour toi au jugement dernier. Si tu te confesses pas, c'est la honte. Si tu te confesses, au jugement dernier, ça, tu seras honoré. Alors, l'enfer. Bah, globalement, comment vous dire ? Pour la prédication sur l'enfer, globalement, ça donne pas envie d'y aller. Voilà. Je crois que je résume les choses. Comment est-ce qu'on présente l'enfer ? Alors, on insiste beaucoup. Ils n'avaient pas peur, hein, les curés de l'époque. On insiste beaucoup sur les souffrances inimaginables qu'on a en enfer. Alors ça, vous le savez, dans la bonne doctrine, on distingue la peine du dent et la peine du sens. Donc c'est la séparation de l'âme avec Dieu qui est la chose la plus... Une âme spirituelle est faite pour Dieu, donc c'est la chose la plus terrible. Mais comme nous, les êtres humains, nous sommes aussi des animaux, puisque nous sommes des animaux rationnels, enfin des animaux spirituels, et que la doctrine qui a fini par se stabiliser après quelques hésitations, c'est que tout le monde va ressusciter, y compris les méchants. En enfer, on n'y est pas simplement avec son âme damnée, mais aussi avec son corps. Et ça, c'est, alors pour ces prédicateurs, c'est pain béni, si j'ose dire, parce que du coup, la peine du sens, c'est que forcément, vu l'unité qui demeure en fait du composé corps-âme dans l'enfer, on ne peut pas être heureux dans son corps tout en ayant une âme damnée. C'est ce qu'on appelle la peine du sens. Donc il y a aussi des souffrances corporelles. Alors, en bonne théologie, il faudrait quand même réfléchir un peu plus que ça. Hein, que ce qui... Mais eux, ils, toujours pareil, ils ne se posent pas trop de questions. Et donc, pour parler de la peine du sens, parce que la peine du dent, c'est bien. Mais une fois que vous avez dit vous serez coupé de Dieu, on est un peu à sec, en fait. Alors que la peine du sens, il y a tellement moyen de faire souffrir son contemporain dans son corps, et puis surtout à l'époque, que là, ils ont une imagination débordante. Mais regardez les tympans des cathédrales. Le côté du paradis, on s'emmerde. Les gens sont raides comme des, sont droits comme des piquets. Ils chantent plus ou moins des psaumes, mais enfin... Alors qu'on est toujours beaucoup plus intéressé par le côté de l'enfer, où t'as un type qui a un pieu dans l'œil, il y a un autre qui a la tête en bas, il est dévoré par une bête qui est mi-ours, mi-scorpion, puis remi-ours par derrière. Donc c'est beaucoup plus rigolo. Alors donc ça, dans la prédication, on a ça aussi. Une grande invention symbolique et littéraire sur les peines du sens. Toujours ça de manière assez grossière, on va dire, assez grossière. Donc, souffrance physique et sensorielle. Alors, oui, un truc original. Alors, il y a des gens qui disent, il y a des origines. Jacques de Voragine, qui devait être le troisième successeur de... Oula, faut que je m'arrête, là. Moi aussi, j'ai encore 5 minutes. Jacques de Voragine, non, faut que j'aille plus vite. Bon, tant pis pour Jacques de Voragine. Bon, qu'est-ce qu'on dit sur l'enfer ? Ah oui, alors, si, ça, c'est intéressant. C'est que, évidemment, enfin, c'est évident, mais... On va insister aussi sur le contraste entre les plaisirs éphémères de la terre et alors le caractère, alors pas éternel parce que seul Dieu est éternel, mais sempiternel des souffrances infernales. Le thème, c'est que, bon, d'accord, tel péché te fait bien envie, mais quoi, t'auras au mieux 5 minutes de plaisir, alors que au ciel, en enfer, t'auras une éternité de douleur. Donc, sois raisonnable, il vaut mieux renoncer à 5 minutes de plaisir pour pas avoir une sempiternité de douleur morale et physique en enfer. Au niveau littéraire, alors, on utilise les métaphores. Alors, c'est des bibles assez bibliques, mais on a aussi un peu des innovations. Métaphore du feu, donc ça, c'est un peu biblique. De l'obscurité. Bon, alors, ça se combine pas forcément, hein, parce que le feu, d'habitude, ça porte la lumière, mais là, de ce point de vue-là, dès qu'il s'agit de faire peur, de toute façon, c'est tout est bon. Hein. Donc, tu vas cramer en permanence, mais sans être vraiment cramé. Comme ça, tu pourras toujours souffrir à nouveau. En même temps, tu verras que dalle. Et alors, c'est plus original, il fera un froid glacial. L'idée, c'est que toutes les souffrances, même les souffrances physiques qui nous paraissent contradictoires, on peut difficilement avoir froid et chaud en même temps, mais en enfer, ça sera possible. C'est comme la SNCF. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui se rapproche de plus de l'enfer. C'est les jours de grève à la SNCF. Un thème original, c'est le puits sans fond. Le puits sans fond, mais je trouve ça sympa de dire, en fait, l'enfer, ça, tu vas tomber, mais c'est un peu des trucs que je me demande si, quand j'étais gamin, j'avais pas des cauchemars comme ça. On tombe, puis en fait, on dit, mais au bout d'un moment, je vais bien arrêter de tomber, puis en fait, non, on continue de tomber. Et on reprend alors des thèmes aussi un peu de la mythologie, le supplice de Tantale, ou des trucs comme ça. Bon, alors, t'auras toujours soif, enfin, des trucs comme ça. On te donnera à manger, mais t'auras encore plus faim. Enfin, c'est. Bon. Et puis les descriptions monstrueuses, ah oui, aussi, ça aussi on aime bien, c'est de dire on va pas faire que souffrir soi-même, mais il y a aussi des démons qui en mettent une couche. Donc on décrit les démons comme des monstres qui viennent torturer. Avec ça, alors il y a des originaux, ça c'est qui ont une vision un peu plus fine et subtile. C'est intéressant de voir ça. Par exemple, Dante, ça je trouve ça très intéressant. Pour lui, là, ce qui caractérise l'enfer, c'est plutôt la perte de l'espérance. Vous voyez, c'est beaucoup plus spirituel comme. Et c'est peut-être plus vrai que ces espèces de descriptions effrayantes, mais de dire. Et d'ailleurs, il oppose le purgatoire et l'enfer exactement là-dessus. Il dit au purgatoire, c'est vrai qu'on aura peut-être un petit peu mal, mais. On est complètement dans l'espérance et au fond, c'est presque le plus beau, hormis la charité. Alors que le plus horrible, en fait, c'est d'être... alors, pour le coup, c'est spirituel, vous voyez. C'est spirituel, mais ça nous dit quelque chose. De dire, vraiment, d'avoir perdu toute espérance, c'est ça le pire, finalement. Parce que du coup, je pense que l'être humain... Ça, c'est bien vu, parce que je pense que nous sommes des indécrottables optimistes, en fait, même moi, en fait, les êtres humains. On a toujours un moment, quelque part, de se dire, mais c'est pas possible, à un moment donné... Après la pluie, il y aura forcément le beau temps. On se dit toujours ça, il y a toujours un moment donné où ça va s'améliorer. Mais en fait, non, en enfer, on perd cette espérance. Bon, alors le paradis, là, en fait, c'est pas ce dont ils parlent le plus. Ils en parlent un peu. Mais ils font un peu comme Jésus. Hein. Jésus est beaucoup plus discret sur... il donne plus d'avertissements sur le chemin qui mène à la perdition que... Donc, il y a une assez grande retenue, il y a une vraie retenue dans les descriptions. Du paradis, au contraire de l'éloquence un peu exubérante de l'enfer. Là, pour le coup, il n'y a pas du tout de symétrique, par exemple. On ne va pas multiplier les images en disant « ça sera comme si, mais encore mieux, tu pourras... à la fois, de même que tu avais des souffrances incompatibles, là, tu auras des joies incompatibles. » Non, il n'y a pas ça, en fait. On garde les deux métaphores bibliques fondamentales du jardin et du banquet. Jardin, pardès, hein, c'est du persan, ça veut dire le paradis. Donc un jardin, c'est agréable de s'y promener, il y a des belles fleurs, quand il fait chaud, il y a de l'eau. Bon, c'est bien, hein, un jardin. Moi, ce qui me parle un peu plus, c'est le banquet, donc la deuxième image qui est aussi biblique, hein, Isaïe 25 et tout. Bon, il y aura un banquet conjugal, hein, c'est les noces de l'agneau et de l'église. Mais vous voyez, c'est assez sobre, en fait. Par contre, ça c'est un truc, alors au niveau théologique, on quitte le plan de l'image, mais ça c'est lié aussi à toute la théologie du XIIIe qui a beaucoup travaillé cette question, notamment Thomas, qui a dit des choses bien intelligentes sur le sujet, mais je ne vais pas vous en parler ce soir, c'est la vision de Dieu. Ça, pour le coup, on parle de la vision de Dieu, je pense que ça touchait les gens, parce que les prédicateurs en parlent. Enfin, cette joie rationnelle de voir Dieu, ce qui comble vraiment... tout l'appétit de notre âme. Et puis, alors, un thème important, surtout, évidemment, dans une prédication, une homélie, une prédication qui a lieu à la messe et qui se connecte avec l'image du banquet, c'est de dire, mais finalement, ce paradis, on en a comme un avant-goût dès maintenant dans l'Eucharistie. Donc ça, c'est une bonne manière. On ne sait jamais comment conclure les homélies, d'ailleurs, mais là, c'est une bonne manière. Et d'ailleurs, vous prêchez sur le paradis, ça sera un banquet. Chers frères et sœurs, ça commence tout de suite. Quand vous allez communier, voilà, ça vous fait une très bonne transition pour la suite. Donc un thème, on voit... Alors oui, un truc original, je vous donne toujours des trucs originaux, c'est Hugo. Hugo, n'importe quoi. Hugues de Saint-Victor. Il a un truc assez rigolo, lui dit l'église, c'est comme un salon de beauté où les âmes se préparent par les sacrements. Non, mais c'est l'image de la noce. Il dit la fiancée, elle se fait belle pour la noce et tout. Donc ça, c'est vrai. On se coiffe les cheveux, tout ça, là. Donc, ça prend beaucoup de temps de préparer par les... Ah, c'est pas les condiments, c'est les... Les cosmétiques, voilà. Les cosmétiques. Par les cosmétiques. Mais en fait, les sacrements, c'est ça. L'église, c'est une fiancée qui passe son temps. Le temps de l'église, c'est le temps où la fiancée se prépare. Donc les enfants de l'église, c'est nous. Par les sacrements, c'est comme un salon de beauté, l'Eucharistie, c'est un salon de beauté où c'est pas le corps qui devient beau par le maquillage et tout ça, mais c'est notre âme. Bon, le purgatoire, qu'est-ce que je peux vous dire du purgatoire? C'est bien. Non, bah ça c'est bien, c'est bien. Alors, bon, je vais pas vous faire la doctrine, ça vous savez ce que c'est. Alors, on insiste... Ça, c'est normal, sur les suffrages pour les défunts, donc l'insistance sur l'union entre l'église souffrante et l'église militante. Donc, il faut prier pour les âmes du purgatoire, ça c'est un grand thème d'homélie. On n'hésite pas d'ailleurs à avoir ce qu'on appelle des exemplaires, je vous en dirai, raconter l'histoire que, et le curé de machin me disait l'autre jour que une très bonne paroissienne à lui, qui a vu son mari était mort la semaine d'avant, et elle l'a vu la nuit, qui lui disait « Mais prie pour moi, je suis au purgatoire et je souffre, mais chaque fois que tu dis un chapelet pour moi, j'ai moins mal. » Enfin, on multiplie les exemples pour inciter vraiment à prier, à porter dans la prière les âmes du purgatoire. Et aussi, il faut bien le dire, à offrir des messes pour les âmes du purgatoire. Ben non, mais c'est important. Prier pour les défunts et faire ses biens, et faire célébrer des messes pour le repos de leurs âmes. On insiste sur l'importance de faire des testaments pieux, donc de léguer une partie de ses biens, que ça peut raccourcir le purgatoire. Non, mais peut-être, moi j'en sais rien, c'est ce qu'il disait à l'époque. Voilà, bon, il y a d'autres trucs, c'est pas très intéressant, Ah oui, si, quand même, il dit... alors, visiblement, donc, un thème quand même important, c'est de... ça changera, alors... je l'avais lu il y a récemment, mais alors je sais plus quand... Ben c'est avec ma chinette, là, comment elle s'appelle, la Sainte Catherine de Gênes, là, en Savellon, sur le purgatoire, où la prédication a bougé avant et après. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand? C'est 14e, non? Sainte Catherine de Gênes, c'est dans ces eaux-là, non? Si, c'est, je crois que c'est entre plus de 100 et 2300, non, mais je crois que c'était... donc, avant, si c'est beaucoup, quand on prêchait sur le purgatoire, on insistait beaucoup sur la souffrance de l'âme. Et après, on a plutôt dit, mais cette âme, finalement, est dans une joie de la purification. C'est peut-être plus positif comme manière de parler du purgatoire. Bon, j'en arrive à ma troisième, ça n'a ni queue ni tête, mon truc. Enfin, un petit peu quand même. Les méthodes de persuasion, mais j'en ai déjà un peu parlé. Donc ça, c'est l'arsenal rhétorique des prédicateurs au Moyen-Âge. Les exemplats, ça, je vous en ai parlé, c'était... Alors, bon, c'est un truc qu'on appelle ça exemplat pour faire savant, mais en fait, n'importe qui prêche utilise des exemples. Enfin, qui prêche ou qui prêche pas, d'ailleurs. Quand vous faites cours, vous faites bien des exemples. Donc, on utilise beaucoup d'exemples qui permettent d'illustrer, de concrétiser des données théologiques, des données doctrinales, qu'on peut prendre. Alors, ces exemples-là, ils peuvent être tirés de la Bible. Hein. Rappelez-vous de Job sur son tas de fumier, rappelez-vous du patriarche Jacob, tout ce qu'on veut, de la vie des saints, mais aussi des faits quotidiens. Voilà, ça, on aime bien, justement, je vous dis, rappelez-vous le Matthieu qui était l'esprit fort du village, il n'allait pas à la messe, et bien... toujours pareil, sa veuve qui, elle, est très pieuse, l'a vue une nuit, dit « Je souffre en enfer » et tout ça. Donc, ne faites pas comme le Matthieu qui n'allait pas à la messe. Vous voyez, donc, on prend des exemples-là tirés de la vie du village. On insiste dans ces cas-là sur, évidemment, les comportements à imiter ou à éviter. Donc, faites pas comme Matthieu, faites bien comme un tel qui, pour le coup, est apparu. Alors, et lui a dit « Je suis au ciel dans la vision, dans la joie, je voudrais vous revoir tous à côté de moi. » Voilà, on l'utilise... C'est la notion même d'exemple, comme des exemples moraux. Alors, un autre truc intéressant, c'est la théâtralisation. Bon, je vous dis, à cette époque-là, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, on était aussi avide d'avoir un peu, presque des... pas des pièces de théâtre, mais enfin, une figuration assez concrète des choses. Et on mettait, alors du coup, ça arrivait, alors notamment pendant le temps de Carême, pour certains sermons, qu'on ajoutait des éléments de décor. Mais pourquoi pas, hein, on a ajouté des éléments de décor pour rendre plus parlant une homélie. Donc, par exemple, si vous voulez parler sur le thème du feu qui brûle, bah vous faisiez, je ne sais pas trop comment, alors, pas quand même un feu dans l'église, ça, je ne pense pas, mais de peindre un truc ou quelqu'un qui traverse l'église en hurlant « Ah, que j'ai mal !» On mettait un peu du... On mettait... Il y avait un côté vraiment pièce de théâtre. Alors, par petits bouts, si vous voulez, c'était pas une pièce totale, mais on figurait par un jeu d'acteurs les réalités dont on est en train de parler. Pour marquer plus les esprits, alors ça, les hommes mendiants mais beaucoup faire ça, peut-être aussi parce que les curés les laissaient pas prêcher dans leur église, parce que des fois, ils s'entendaient pas très bien. On prêchait dans les cimetières. Alors là, évidemment, pour prêcher sur la mort, c'était très très bon. Vous êtes donc... Et puis regardez la tombe à côté, mal entretenue. Ce gars-là, il y a trois siècles, c'était le seigneur du coin. Regardez sa tombe, la croix est cassée, on arrive même à peine à lire son nom. Vous voyez bien que les honneurs de ce monde sont vains, finalement. Donc vous finirez en poussière. Quand on prêche au cimetière, on est in situ pour avoir des phrases un petit peu fortes. Alors ça, ouais, c'est le truc dont je vais vous dire aussi. Ça, j'avoue que... Et on n'a pas pensé, mais on n'hésite pas, alors je sais pas comment ils se procuraient ces trucs-là, mais on n'hésite pas même de temps en temps à sortir de sa manche une tête de mort et à parler à la tête de mort. Alors, ou bien soit on fait questions-réponses, ou bien lorsqu'on est ventriloque, c'est encore plus impressionnant, on demande à quelqu'un, mais à dialoguer avec la tête de mort, donc comme ça, alors, pour dire, et donc toi qui es mort, alors, il paraît que ça marquait beaucoup les gens, ça. C'est des petits dialogues macabres avec des têtes de mort, mais ouais, c'est to be or not to be, non, c'est pas. Il n'y avait pas une tête de mort, non. Voilà, alors quand je parlais des décors macabres, ça pouvait être des décors par des acteurs, des comme ça, des décors pas, notamment les danses macabres, ce genre de choses, c'est un petit peu le. On aime bien, ça c'est un siècle de l'image. Enfin, c'est aussi le Moyen-Âge, c'est un grand siècle littéraire évidemment, mais c'est aussi quand même un siècle de l'image. Et puis alors, dernier point qui servira de vraie conclusion, quelle heure que c'est. Oh, ça va. J'ai eu 5 minutes de retard. C'est une rhétorique de la peur. Voilà, ça c'est un peu le truc aujourd'hui quand on parle de ces choses-là. Alors, moi je le présente de manière. J'essaye de mettre un petit peu d'humour dans tout ça, mais c'est sûr que on peut se poser la question en disant, mais il y a des bons côtés, certainement ça a aidé les gens à prendre au sérieux la conversion, la question de la confession, la question de la contrition, la question de la pénitence. Bon, savoir aussi que de fait, l'existence humaine, c'est quand même un grand choix pour ou contre Dieu, c'est pour ça qu'on est sur Terre au fond, donc... Mais est-ce que cette rhétorique de la peur, est-ce qu'elle n'a pas aussi des inconvénients, voilà. Donc aujourd'hui, en général, on la juge assez sévèrement. Voilà, on trouve que c'est un discours ambivalent, qui a des effets positifs, mais aussi beaucoup d'effets négatifs, comme une culpabilisation excessive. Je repense effectivement au coup du mourant, c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé, pas tous les jours, mais ça m'est arrivé quand même un certain nombre de fois d'aller donner le sacrement d'extrême-onction à des gens qui allaient mourir ou dans la journée ou le lendemain. Et c'est vrai que quand il y a la personne puis sa famille autour, je n'ai que des mots de consolation. Alors peut-être que c'est que je suis lâche, hein, mais c'est sûr que je ne me vois pas... ça peut être de la lâcheté, mais je trouve presque que ça manquerait un peu de charité, au moins pour les... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est compliqué. D'un côté, c'est vrai qu'il faut toujours dire la vérité. Enfin, il y a des vérités dures à entendre. Il y a peut-être des vérités qu'on doit entendre sur son lit de mort, mais... spontanément, je prends plus un ton de consolation, de confiance en Dieu que... Voilà, donc ça, bon, enfin, en tout cas... Bon. Donc, un discours ambivalent, ça peut... Une culpabilisation excessive, ça peut favoriser l'angoisse, ça peut favoriser le scrupule. Et certains disent aussi, en fait, trop le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que à trop parler de ces trucs-là de manière peut-être un peu trop grossière, un peu trop matérielle, ça peut être contre-productif au sens où on n'est plus du tout crédible, c'est-à-dire que ça peut rendre les gens indifférents à la chose. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, rhétorique de la peur, c'est souvent comme ça là, qu'on résume, c'est un peu la thèse de Delumeau, hein, son bouquin, qui est un très bon bouquin, c'est de dire qu'il y avait une omniprésence des fins dernières et de la prédication des fins dernières, mais finalement, est-ce que c'est pas trop commandé par la rhétorique de la peur? Alors, ce qu'on a essayé de faire dans les, je sais pas, 60-70 dernières années, j'ai l'impression que, ou bien, on a complètement laissé tomber la prédication des fins dernières, ce qui me paraît pas excellent, mais bon, c'est sur la solution de facilité, ou bien on essaye de les réinterpréter. Je pense que théologiquement, c'est bien, c'est réinterpréter, c'est-à-dire justement être capable de dire, mais cette fameuse, vous savez, l'axiome de la 34, de dire dans toute réalité spirituelle, elle a forcément un point commun avec une réalité très, très humaine, tout simplement humaine. Il y a de la ressemblance, c'est l'analogie, il y a de la ressemblance, mais il y a toujours une dissemblance, et la dissemblance est plus grande. Je pense qu'aujourd'hui, il faut parler un peu de la ressemblance, mais si vous voulez être entendu, il faut pouvoir valoriser aussi la dissemblance. Par exemple, dire c'est sûr que le Christ nous jugera, mais il est pas son jugement, justement, n'est pas un jugement à la manière des juges humains, parce que les juges humains, ils font peut-être ce qu'ils peuvent, mais on sait bien qu'un jugement humain est toujours faillible, parce qu'on n'a pas toutes les données, on ne connaît pas... Alors, le jugement du Christ, c'est un jugement dans une pleine vérité. Et en fait, on peut parler de ça d'une manière qui, presque pas rassure, le but n'est pas de se rassurer, mais qui est plus juste théologiquement. En fait, moi, je pense que c'est un peu comme ça que j'argumenterais pour dire cette rhétorique de la peur, elle avait certainement une bonne intention, mais peut-être qu'elle n'était pas toujours très ajustée. C'est que je crois profondément que le mieux, c'est évident de dire ça, mais que... Plus on essaie d'être proche de la vérité, même en prédication, mieux c'est spirituellement. Et donc, la dissemblance fait partie de la vérité des discours des fins dernières. Alors, quelqu'un qui a beaucoup essayé de faire ça, par exemple, c'est Karl Rahner, qui a écrit plusieurs articles assez intéressants, d'ailleurs, sur les fins dernières. Et lui, son idée, c'est essayer de comprendre comment, humainement, les fins dernières, la symbolique du Moyen-Âge ne nous parle plus trop, parce qu'on ne voit plus trop des gens au pilori, sur ces trucs comme ça. Donc, ça nous parle, la question de la honte, peut-être que ça ne nous parle plus trop. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient situés dans la culture de l'époque. Mais n'empêche que humainement, ça concerne tout homme. Donc, il doit y avoir un moyen de retrouver comment. De pouvoir prêcher les fins dernières de telle sorte qu'en disant, ben, ces quatre fins dernières, en fait, elles te concernent, toi, homme ou femme du XXIe siècle. Ça te concerne dans la manière dont tu comprends l'être humain aujourd'hui, ce qui n'est pas la même chose qu'au Moyen-Âge, qui ne sera pas la même chose que dans 5 siècles. De toute façon, les fins dernières te rejoignent. Donc essayez de faire cet effort-là pour que les fins dernières soient parlantes. Bon, voilà, je m'arrête là. C'était un peu de briques et de broc, mais enfin, c'est comme ça. J'ai rien d'autre à vous dire. Est-ce que vous voulez une question? Pas forcément, hein, mais sinon on dit les... Oui, vas-y Marie.
Oui, du coup, la peine du sens, c'est toujours d'actualité. Oui.
Ah ben ça c'est de la doctrine, ça on n'a pas ça oui ça fait partie de la doctrine chrétienne. Mais de toute façon c'est ou bien on croit pas à la résurrection. Enfin il y a pas tellement de dans les textes apocalyptiques.
Après le jugement dernier donc au moment de la résurrection.
Non on ressuscite. Le jugement a lieu dans l'être ressuscité. Donc on ressuscite avant le jugement. Et dans les textes apocalyptiques juifs puis chrétiens qui ont forgé une partie de ces fins dernières. De fait, il y a des textes où on ne parle que de la résurrection des justes, parce qu'on voit la résurrection comme la récompense des justes, mais il y en a d'autres où c'est tout le monde qui ressuscite. C'est ça, finalement, que l'Église a gardé. Et à partir du moment où on dit ça, je te dis, on imagine mal un type en enfer qui est avachi, comme on était pendant le Covid, quoi, avachi sur son duvet, sur son truc, en bouffant des cacahuètes, et en écoutant le président dire « Nous sommes en guerre !»« Nous sommes en guerre !» Et tout en étant torturé dans son âme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même une unité du corps humain. Alors, là où je me méfierais, de fait, c'est, je pense que c'est pas très juste, ça me semble pas très juste de dire de ça, parce que la résurrection du... Enfin, le corps, que ça soit le corps du damné, et encore plus le corps ressuscité du juste, précisément, c'est un corps matériel, mais pas comme le nôtre, parce que sinon... Donc, je pense... Moi, je serais prudent sur la transposition pure et simple... De genre, c'est comme si on te donnait des coups de couteau tous les jours, et puis tu manges et t'as encore faim quand tu manges. Je pense que c'est un peu grossier comme manière de voir les choses, mais que mon corps soit et un retentissement du fait que mon âme est coupée de Dieu, oui, je pense que ça fait partie de ce que c'est que l'être humain. Nous sommes corps et âme, on est des animaux. Enfin, c'est ça la merveille de l'être humain. C'est ce qui fait aussi à la fois sa petitesse et sa grandeur, c'est qu'on est des primates avec un esprit, en fait. Un alliage improbable de chimpanzés et d'anges, en fait. Et que ça, notre béatitude comme notre damnation affecte les deux composantes.
Et donc le jugement particulier...
Oui. Oui. Alors le jugement particulier, ça j'en ai pas parlé, on peut en parler
dans les prédications. Mais... L'enfer, c'est après le jugement particulier, donc avant la résurrection.
Ah ben, la damnation, la peine du dent, ça c'est tout de suite, c'est Benoît XII, donc ça c'est Benitus Deus, c'est 1322, je crois, un truc comme ça. Donc, parce que le pape d'avant avait un peu... il s'était un petit peu trompé sur les fins dernières, donc c'était et donc c'est Jean 22, donc et après il y a plus pape Jean pendant très très longtemps, sauf un antipape Jean 23 qui est pas le Jean 23 qu'on connaît, hein. Donc il y a eu donc Benoît XII a fait une constitution dont on considère qu'elle a un considère qu'en fait elle a comme une valeur de concile, enfin de texte conciliaire, et donc c'est le sort ultime de l'âme est fixé dès la mort. Et donc, tu as l'enfer pour les gens damnés, la vision béatifique pour ceux qui sont tout de suite aptes à voir Dieu, et le purgatoire pour les autres. Puis la résurrection.
Intervient au moment de la résurrection.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
La peine du sang, c'est non du dent. Donc, il y a la peine du dent après la mort.
Voilà, tout de suite. Tout de suite.
Et après le jugement dernier.
Ah, ben la peine du sang, il faut attendre que tu sois résurrectionné, sinon, tu n'as pas de corps. Tu n'as pas de corps pour souffrir, donc ça, faut attendre. Je sais pas s'ils ont très hâte de. J'en sais rien, et puis on n'est jamais très heureux de réfléchir à ces trucs-là, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a une question, vas-y.
Oui, alors,
Inès.
De même que parfois on a tendance à regarder les enfants qui étaient de râle, il y a un peu parce qu'il y a des serpents qui ont des damnés, on sait que c'est un peu ridicule.
Oui.
De même, le fait de faire une lecture théologique de l'histoire, on essaye de repérer en fait des
choses. Oui.
De moment, on a l'impression que l'histoire du salut prend un peu un tournant et nous achemine vers la fin. Enfin, de même, on a tendance à avoir un peu de suspicion, je trouve. Enfin,
oui, oui, oui. Sur le joachimisme, tu veux dire, sur cette lecture de Joachim
Flan. Ouais. Alors que, de fait, enfin, le Christ, il parle de signes des temps, et même si les prophéties sont extrêmement vagues, donc difficiles à situer, on ne sait pas trop s'il parle en fait, de la paralysie par quoi, ou de enfin, manifestement, il y a quand même une incitation à chercher dans l'histoire.
Oui, oui, c'est vrai. Puis, oui, tout à fait. Puis,
comment est-ce qu'on fait pour...
Ben... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux questions. Il y a la question de l'exégèse de l'Apocalypse. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le monde des exégètes, en gros, les exégètes de métier, mais vous savez, c'est des gens, on ne sait pas trop s'ils croient en Dieu ou pas. Enfin, les exégètes de métier sont très, très sévères pour ce type de lecture, dont ils considèrent que c'est pas... C'est, comment dire, c'est pas... que c'est pas rationnel, en fait, que... C'est souvent le cas, ou de petites sectes, ou même alors c'est des lectures d'ailleurs qui ont été plus facilement faites chez nos frères protestants que chez nous. D'ailleurs, ils sont très très forts. Encore maintenant, d'ailleurs, vous allez sur YouTube, vous avez des prédicateurs qui sont d'ailleurs, je pense, de très, très braves types, mais on aime bien lire l'Apocalypse comme ça. Les exégètes sont très très critiques sur ce type de lecture. Donc, ça, c'est de l'Apocalypse. Mais après, il n'y a pas que ça dans la théologie de l'histoire. C'est pas nourri que de la lecture de l'Apocalypse. Il y a notamment un grand... Avant qu'il y ait Joachim Flor, quand on voulait faire de la théologie de l'histoire, en fait, on prenait, c'est ce qu'on appelle la théologie de l'hexaéméron, donc on prend les six jours de la création, plus le septième, qui est le Shabbat, et on essaye plutôt de calibrer les âges du monde à partir de ces périodes-là. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, le Christ nous a fait déjà basculer dans le sixième jour, donc du coup, on est capable de parler des âges avant, mais ce qui nous quand on veut un peu réfléchir à la fin des temps, nous, c'est pas tellement de nous dire on est dans la période, la dernière, puisque le Christ est ressuscité, on veut des trucs un peu plus précis. Alors il y a d'autres schémas, il y a des schémas qui fonctionnent sur 8, mais c'est les Victorins, ils ont beaucoup fait des trucs comme ça, ils ont fait des trucs très compliqués avec l'Arche de Noé, parce qu'ils aimaient bien dessiner, ils faisaient des beaux dessins, c'était un petit peu comme des architectes, et donc Hugues de Saint-Victor, il a des dessins de l'Arche de Noé, alors ces types-là étaient... C'était intéressant. Ils avaient des trucs sur le nombre d'or, ils avaient des grandes spéculations numériques. L'Arche de Noé devait être faite avec le nombre d'or. Il y a une correspondance entre ça et les périodes de l'histoire. Donc, je pense que cette lecture de l'Apocalypse, elle est disqualifiée, mais ça ne veut pas dire que l'idée qu'il y ait quand même une espèce de dynamique historique, enfin, il faut être très prudent avec ça, mais qu'il y ait une dynamique historique avec des phases. Et puis qu'à un moment donné, ça aussi c'est une idée qu'on a chez quelques pères de l'Église, c'est que l'Église va revivre de manière un peu différente évidemment, mais quand même reconnaissable, ce que Jésus a vécu dans son ministère, enfin dans sa vie publique, l'Église va le revivre. Genre au début ça allait bien, puis à la fin ça va pas bien. Donc ça fait aussi partie de certains trucs des pères de l'Église, pas sur l'Apocalypse mais sur d'autres sources. Donc je pense qu'on peut pas complètement jeter cette idée de périodisation, mais c'est sûr qu'il faut être très prudent, parce que Paco Rabanne s'est discrédité avec cette histoire-là, hein, et on n'a pas envie de... Je n'ai pas envie d'être Paco Rabanne, vous voyez qui c'est, non ? C'est pas un mec qui faisait des parfums, non ? Mais il était complètement cinglé, mais plein de fois, il a annoncé la fin du monde, par exemple, dans des dates très précises, ça marchait jamais. Vous connaissez pas cette histoire, mais vous connaissez rien. Paco Rabanne, quand même, merde ! Hugues de Saint-Victor, je comprends que vous ne connaissiez pas, mais... Donc il faut toujours se méfier. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut essayer de trouver des espèces de phases de l'histoire en étant prudent, parce que, en plus, on peut avoir l'impression que nous, on vit une phase de l'histoire du salut, puis qu'en fait, dans une autre partie du monde, c'est exactement le contraire. On peut avoir, nous, l'impression que l'Église est en train de mourir, puis dans d'autres parties du monde, c'est plutôt elle est en train de naître, donc... Voilà, je trouve que rien que ça nous invite à être prudents. Puis par contre, donner des dates, des jours, des machins, puis identifier des personnages précis. Newman, par exemple, lui, quand il était anglican, il aimait bien faire ce genre de trucs. Notamment Napoléon, il n'aimait pas trop Napoléon. Bah, il était un peu anglais. Mais quand il est devenu catholique, il a complètement arrêté. Mais il a fait toute une série de sermons hyper intéressants sur l'Antichrist. Mais c'est quand il était anglican, après il a arrêté de faire ça. Bon, allez, on va se quitter, bons amis.